Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kerrot.
Scouting, Loïc Tanzi, Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans Scouting, c'est le podcast d'RMC Sport qui déniche pour vous les talents français de demain. Avec Loïc Tanzi, cofondateur de Scouting, l'homme qui sait. Salut Loïc.
Salut à tous, l'homme qui sait quoi?
L'homme qui sait tout.
Ah bon?
C'est ça, d'accord. C'est pour ça que tu es là.
C'est gentil.
Avec Mathieu Bodmer, l'homme qui voit, l'œil de la Dream Team. Salut Mathieu.
Salut à tous.
Salut Mathieu.
Et avec Olivier Gall, l'homme qui joue, l'ambassadeur de Football Manager.
Il a préparé ses lancements.
Ouais, on est là, on travaille.
Oh, il a bossé. Hein.
Ah oui, on travaille. Ça va Olivier?
Et salut, ça va, ça va.
Et toi c'est quoi?
L'homme qui écrit.
Alors j'y ai réfléchi, je me suis dit, moi on va dire quoi?
L'homme qui vend tout le monde pas cher.
Moi je suis l'homme qui lit, pas qui lit les brèves mercato de Loïc Tanzi. L'homme qui fait le lien entre vous tous.
C'est pas faux.
Voilà. Ah ouais, voilà. C'est faux.
Vous êtes très sympa, mais vous êtes tous des gros caractères et moi il faut que j'arrive à harmoniser tout ça.
C'est pas vrai.
C'est un peu mon rôle dans ce podcast. C'est vrai. Voilà. Alors Gourou, tu nous tiendras au courant d'où en est le Scouting FC. J'espère que j'ai pas fait trop de bêtises au niveau du mercato.
J'ai réussi à te tenir.
Ah, très bien. La partie de Scouting dans Football Manager, j'espère que le directeur sportif Tanzi s'est réveillé.
Oui. Là,
on verra où on en est.
Je te ramène encore aujourd'hui un bon défenseur, tu vas voir.
Exactement, mais si on va voyager dans ce nouvel épisode, traverser de l'océan Atlantique direction la Guadeloupe, on vous présente un milieu ou défenseur central gaucher formé au Stade Lamantinois qui appartient aujourd'hui au club partenaire de ce club guadeloupéen. Le Stade Rennais, son nom c'est Januel Bélossian, le frère cadet de William Bélossian, champion d'Europe 2021 du 60 mètres haies, champion du monde junior sur 110 mètres haies. Vous entendrez William dans ce podcast, vous allez également entendre Michael Mirabli, président du Stade Lamantinois. Et puis on a des invités en direct, notamment Micheline, la maman de Januel. Bonjour Micheline.
Salut Micheline.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous Micheline.
Ben, je vous en prie.
Tu remarqueras qu'on a de plus en plus les mamans. Quoi.
Eh oui, mais ça fait plaisir
avec
d'avoir les mamans.
Rotondo, on avait la maman.
Parce qu'on a les petits coulisses comme ça, c'est mieux. On a également en direct Gemaël Bematol, qui est le responsable de l'école de foot, justement, du Stade Lamantinois, qui a accompagné Januel. Salut Gemaël.
Salut, bonjour tout le monde.
Ravi de te retrouver également, vous êtes tous les deux en direct de Guadeloupe et évidemment on aura le temps d'en reparler. Et puis le dernier conseil qu'on vous donne toutes les semaines, si ce n'est pas encore fait, allez vous abonner sur les différentes plateformes de podcast, évidemment pour avoir les épisodes de Scouting en exclusivité. C'est parti pour Scouting. Allez Loïc, fais-nous découvrir cet espoir rennais, un défenseur central gaucher ou milieu de terrain, c'est la particularité de Januel Bélossian, évidemment.
Qui est né en Guadeloupe aux Abîmes le 17 février 2005, c'est le troisième joueur 2005 qu'on fait dans Scouting après El Shaddai Bichouabu du PSG et Guillaume Rest, le gardien de Toulouse qu'on a fait la semaine dernière. Tu l'as dit, formé au Stade Lamantinois en Guadeloupe, milieu de terrain sentinelle de formation, mais depuis le début de saison, depuis septembre dernier, le Stade Rennais le fait jouer en défense centrale. Il a profité d'une blessure pour redescendre en défense centrale gaucher, mais qui a quand même une qualité technique des deux pieds. Il peut jouer du pied droit sans aucun problème. Bonne prise de balle, une bonne qualité de transmission, capable de casser les lignes par la passe, qui est important dans le jeu moderne pour un défenseur polyvalent, on l'a dit, qui peut rejouer au milieu de terrain si jamais il en a besoin. Ce que j'aime chez Bélossian, c'est que c'est souvent sa prise d'information. Et on sent qu'il lit le jeu avant tout le monde, qu'il arrive à bien se repérer dans l'espace avant les autres. Et à son âge, 2005, c'est très important. Et dernière chose très importante également, c'est qu'il a joué titulaire avec les professionnels de Rennes face à Lorient en match amical il y a quelques semaines, au poste de défenseur central.
Alors vous le savez, on vous fait découvrir de très jeunes joueurs depuis le début de la création de Scouting. Là, c'est le troisième 2005. Ouais. Il est né en 2005,
si
tu le disais.
Si je peux me permets, je pense que c'est le quatrième, les amis.
Quatrième?
Ah, c'est qu'on a fait.
Matistel.
Ah oui,
c'est vrai, c'est
déjà
le premier Matistel.
Le premier épisode. Et autre joueur du Stade Rennais, d'ailleurs. T'as raison. Bah, c'est encore plus jeune que les autres. Donc, ça prouve.
Bah, c'est beau.
On oublie, c'est déjà très loin.
Ouais, 2005, c'est beau quand même.
Ah ouais, la précocité.
Matistel joue en Ligue 1, c'est encore autre.
T'étais où en 2005, Mathieu?
À Lille.
Eh oui, à Lille.
T'imagines, t'es déjà père de famille.
Bah oui.
Moi, ça ne nous rajeunit pas. Hein.
Ah non, ça ne nous rajeunit pas.
Oui, 2004, le plus jeune.
Mathieu, justement, c'est un profil que tu connais bien et c'est un profil que tu apprécies beaucoup d'ailleurs.
Oui, intéressant. Alors après, j'ai envie de dire quasiment tous les joueurs du Stade Rennais sont intéressants. Mm. Ils ont des grosses générations. Hein. 2004, Hugo Chocou, on ne l'a pas fait parce qu'il joue déjà en Ligue 1.
Ouais.
On a fait Mathis Tel, très bien. Mais ils en ont encore d'autres qui arrivent. On en voit dans le groupe pro très régulièrement. Et franchement, c'est un club qui travaille bien.
Désiré Doué.
Doué, exactement. Oui. Même au niveau des gardiens. Bref, c'est un club qui travaille très bien depuis longtemps. Il est souvent récompensé dans les meilleurs centres de formation français depuis de nombreuses années. Et oui, profil intéressant. Je veux dire, un peu comme moi, milieu de terrain, défensif. Je pense même qu'il peut jouer relayeur aussi. Défenseur central aujourd'hui avec les pros.
C'est vrai que c'est un mini bonne mère.
Ouais, avec des qualités de bonne qualité.
C'est technique en tout cas, c'est un joueur.
Ouais, mais non, c'est un bon joueur. C'est un beau joueur. On avait fait Rotondo la semaine dernière, qui était un beau joueur à voir jouer.
Ouais.
Là, encore une fois, c'est un joueur qui est agréable à voir.
1m80, bel océan.
Et je te posais la question, allons-y tout de suite. Toi, tu lui vois un avenir plutôt en défense centrale ou au milieu de terrain ? Ou tu te laisses la possibilité de le voir dans les deux postes ?
Je pense qu'il jouera les deux.
Il jouera les deux.
Il jouera les deux. Il y a une question pendant des années, tu sais, sur Boubacar Camara.
Ouais. Mmh. Bah oui,
un peu
vrai.
Le même profil,
ouais.
Au niveau de la taille, etc. Qui actuellement joue milieu défensif, pas sentinelle, mais en même temps troisième défenseur central.
Ouais.
Donc pour moi, c'est pas négatif. Faut pas choisir un poste.
Voilà.
Tant que tu peux jouer, faut jouer. Peu importe le poste. Quand tu joues au milieu, tu progresses. Quand tu joues derrière, c'est d'autres attributs. Tu progresses aussi, donc faut profiter de ça.
Olivier Gall,
oui.
Monsieur Gourou, joueur 2005. Donc, pas trop d'informations pour l'instant sur Januel ou il y a déjà des notes dans Football Manager ?
Alors non, pas des masses du tout. Il fait partie de ceux où il y a peu d'informations. D'autant plus, il a encore son... En termes de poste, il est noté comme milieu de terrain axial avec une légère possibilité de jouer en milieu défensif.
Mm-hmm.
Mais pas du tout encore de notes en défense.
Okay. Vous savez qu'il est gaucher. Hein.
Il n'est pas noté, son pied n'est pas renseigné. Donc je pense qu'en fait, il fait partie des profils qui ont été faits parce qu'ils sont dans l'effectif.
Ouais, d'accord.
Mais sur lequel le chercheur n'avait pas de données.
Non, mais t'inquiète pas, on va les appeler, on va leur filer des infos. Pas de problème. On a la chance d'être avec Micheline Bélossian, donc maman de Januel et maman de sportif de haut niveau, parce qu'il y a Januel et il y a William Bélossian, qui est une star de l'athlétisme en France. Félicitations déjà Micheline, bravo.
Merci beaucoup, merci.
Et le sport, c'est une affaire de famille chez les Bélossian, alors Micheline?
Oui, puisqu'on parle de Januel tient cela du côté de son père qui jouait le football. Et puis ses parents ne voulaient pas qu'il parte pour faire carrière là-dedans. Et Willem détient ça de moi, parce que moi aussi j'ai voulu faire de l'athlète, mais c'était du saut en hauteur et ma grand-mère ne voulait pas.
D'accord.
Alors les deux
qui m'a élevé.
Ok.
Ouais, les deux familles, que ce soit le père ou la mère, vous n'avez pas pu faire une grande carrière.
Oui. Alors les enfants nous le rendent bien.
Bah oui.
Et c'est pour ça que vous laissez les enfants du coup maintenant faire carrière. Vous les empêchez pas de faire carrière.
Ben vous savez, on n'est pas là en tant que parents pour empêcher nos enfants de réaliser leurs rêves.
Bah oui, évidemment.
Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est les accompagner et puis les encadrer.
Si vous venez de l'athlète, votre préféré, c'est Willem, alors ?
Oh, la question.
Non. Nous aimons tous nos enfants.
Non, c'est une plaisanterie, évidemment, monsieur.
Non, nous aimons tous nos enfants, jamais.
Est-ce que vous avez d'autres enfants ?
Ah oui, est-ce qu'il y a d'autres champions dans la famille ?
Ben, Willem s'est lancé dans la clé parce que son frère aîné, qui vit actuellement à Londres, était là-dedans.
D'accord. Ok.
Et du coup, quand il allait regarder son frère à l'entraînement, il demandait tout le temps à l'entraîneur qui était Monsieur Lucien Gayadine, qui l'est encore d'ailleurs, avec les poussins. Monsieur Gayadine, je veux bien prendre un départ. Monsieur Gayadine lui disait, mais
tu es
trop petit.
Micheline, revenons sur Januel donc, et sa passion du foot. Il a démarré tout jeune, c'est ça, à 5-6 ans, le football ?
Ah ben oui, il faisait comme Willem. il avait la même attitude que Willem. Quand il allait regarder Willem à l'entraînement, il voyait les gens jouer, les enfants jouer. Il disait aux copains de son papa, alors il disait à Henri Bématol, Henri, tu peux pas me laisser jouer? Et Henri lui disait pareil, tu es encore trop petit. Alors, pour cela, on l'a mis à Jicastel.
Ouais, au début, il a démarré
tout
là.
Tout près de chez nous, il a démarré là, avec M. Francione. Et quand M. Francione a vu son évolution, M. Francione a dit non, il faudrait qu'il passe à une autre étape. Et on l'a emmené au stade de la Montignore.
Et là,
et de là
la rencontre s'est faite avec, évidemment, Gemaël Bématol.
Avec Gemaël Bématol et, voilà. Et tout le staff.
Exactement.
Qui ont cru en lui et qui l'ont emmené à... Moi, je dis que c'est eux qui l'ont emmené à ce niveau-là.
Et ouais.
C'est que le début.
Oui.
Alors, justement, Gemaël est en direct avec nous aussi de Guadeloupe. Gemaël, qui est directeur justement de l'école de foot du Stade Lamantinois, qui est un gros club guadeloupéen. Gemaël, revenons au début. Tu vois débarquer Januel et tout de suite, tu te rends compte des qualités extraordinaires qu'il a?
Oui, tout de suite, on a vu que c'était un garçon qui était en avance. Et d'ailleurs, en fait, très tôt, en fait, on a commencé à le surclasser. Naturellement, en fait, on n'a pas forcé les choses. Parce que déjà, il était un peu plus élancé que les autres, au même âge. Donc c'est vrai qu'il faisait une tête de plus que les autres. Et tout de suite, en fait, les qualités, c'était visible, quoi. Donc tout de suite, on a commencé à le surclasser, tout en faisant attention.
C'est le même système de surclassement qu'en métropole ? Puis,
oui, c'est ça, c'est pareil. On est régi par la 3F, c'est exactement pareil.
Okay.
Donc quand il était U9, il jouait avec les U10, U11, et puis ainsi de suite, en fait.
Et la chance qu'il a eue, évidemment, Januel Bélocian, c'est qu'un partenariat s'est noué entre le Stade Lamantinois et le Stade Rennais. On a interrogé justement avant le début de ce podcast Michael Merabi, qui est le président du Stade Lamantinois, et qui nous explique justement la genèse de ce partenariat.
Le partenariat avec le Stade Rennais, c'est une longue et belle histoire. C'est d'abord un Guadeloupéen, M. Cédric Vanoukia, qui est éducateur au Stade Rennais et qui est venu en Guadeloupe de lui-même au départ. On a organisé une détection pour pouvoir repérer des gamins. Et à la suite, il a défendu l'idée de pouvoir établir un partenariat avec la Guadeloupe. Dans un premier temps, ce fut un partenariat pour un an. Et nous sommes maintenant dans le troisième niveau de partenariat noué pour 3 ans jusqu'en 2024.
Cédric Vanoukia, ami de Mathieu Bodmer, que tu as croisé
tout
en jeune.
Lié quand même.
C'est la même génération.
Même génération.
Ouais, 82, on a fait toute l'équipe de France ensemble pendant de nombreuses années. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en contact. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a eu des problèmes de santé, qui a dû arrêter sa carrière à un moment donné, qui était un bon joueur.
Mais qui a fait une belle reconversion.
Mais qui est un très bon éducateur. Ouais. Qui a passé diplôme et qui est en train de gravir les échelons petit à petit.
C'est pas bête d'aller chercher en Guadeloupe. Il y a souvent de très bons joueurs.
Bien sûr.
De nouer un partenariat avec le meilleur club guadeloupéen.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai connu ça à Caen à l'époque. J'en parle avec Benoît en antenne. Les premiers qui étaient arrivés, c'était les frères Zoubar à Caen.
Ouais. Et oui, c'est vrai.
Ronald et Stéphane. Et puis après, Caen a amené notamment Thomas Lemar.
Ouais. Ouais.
Et Lénine Nangis, ils ont signé un partenariat, c'était les premiers, je pense, à l'époque. Ronald, il arrive il y a 20 ans maintenant.
Bah oui,
en vie.
Bah oui, c'était avant.
Il y a 20 ans, avec un coach qui s'appelait Philippe Tranchant, qui est assez connu, qui aimait bien la Guadeloupe, qui a amené des joueurs. Et puis, quand on a pris beaucoup de joueurs guadeloupéens, ça a plutôt, voire même très très bien marché.
Alors justement,
champion du monde aujourd'hui.
Ouais, avant de retrouver Gemaël et Micheline encore qui sont en direct avec nous, réécoutons Michael Merabi, le président du club du Stade Lamantinois, qui nous explique justement comment ça marche effectivement, quel est le fonctionnement de ce partenariat entre le club guadeloupéen et le Stade Rennais.
Ce partenariat a un double niveau, sous la détection et sous la formation des éducateurs. Donc le Stade Rennais en général se déplace sous l'île 2 fois par an, la période du carnaval, c'est-à-dire au février, et la période de la Toussaint. Et nous allons en immersion chez eux et à ce moment-là, on voit un peu comment les choses se passent. Nos éducateurs font le déplacement à Rennes et vice-versa, Rennes fait le déplacement chez nous. Donc si vous voulez, il y a une formation dans notre île et aussi une formation en interne au centre de formation du Stade Rennais. Et ce partenariat il nous permet justement de valoriser le jeune à potentiel.
C'est très important pour un club comme Rennes d'essayer de former les éducateurs sur place, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de moyens en Guadeloupe qu'en métropole.
Et c'est un gain de temps.
Par la fédération, notamment.
Ouais.
Bien sûr. Ils ont pris le problème par le bon côté.
Ben oui, c'est gagnant-gagnant. Là.
Exactement. Ouais. T'as beaucoup de clubs, malheureusement, qui vont faire l'inverse, qui vont aller chercher des joueurs, mais sans former les éducateurs. Alors là, c'est un projet à plus long terme. Il faut plusieurs années, le temps que les joueurs progresser, etc. Mais si tu formes bien les éducateurs, obligatoirement, à un moment donné, tu auras de meilleurs joueurs.
Jemaël, comment c'est perçu au stade Lamantinois lorsque ce partenariat se crée? Est-ce que c'est une excellente nouvelle pour vous? Est-ce que du coup, vous travaillez en parfaite harmonie avec les dirigeants rennais lorsqu'ils viennent sur l'île?
Oui, c'est très bien perçu, surtout qu'en fait, nous, sur l'île, en fait, au niveau des détections qu'on fait, en fait, on ne fait pas uniquement pour le stade Lamantinois. En fait, c'est pour l'ensemble des joueurs de l'île. Et en fait, c'est des détections en fait, qui sont gratuites. Donc en fait, c'est ouvert à tout le monde. Puisqu'en fait, il faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a certains secteurs qui sont plus défavorisés. Mmh. Et c'est vrai que souvent, en fait, les détections, souvent, c'est 150, c'est, enfin, voilà, c'est monnaie. Le stade rennais, en fait, ils ont pris le parti de dire on fait une détection, on vient en Guadeloupe, c'est gratuit. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Donc, la chance qu'on a eue, alors, le premier fruit, en fait, de la détection dans le cadre du partenariat, ça a été fait avec un joueur du Stade Lamantinois. Donc, ça a vraiment consolidé, en fait, l'idée qu'on avait de faire cette détection, ce partenariat. Et ensuite, pour les éducateurs, puisqu'en fait, il faut savoir qu'on est tous bénévoles. Donc, on travaille. Ensuite, on enchaîne avec le foot. Donc, de venir en immersion dans un centre de formation, c'est déjà génial. Mais de le faire, en fait, dans un centre de formation qui fait partie des meilleurs en Europe, c'est encore plus grandiose.
Et c'est le seul club Rennes à faire ça en Guadeloupe ?
Non, vous avez d'autres clubs qui le font. Peut-être pas de la même façon, mais il y a d'autres clubs qui le font.
Qui ça ? Quel club vient s'intéresser à la Guadeloupe ?
Alors, en fait c'est notre façon d'aborder les choses. Parce qu'en fait, nous, on a vraiment un partenariat avec différents axes. Et en fait, vous avez d'autres clubs en fait, qui vont faire un coup, c'est-à-dire qu'ils vont venir avec des recruteurs sur l'île, faire des immersions, faire des détections. Donc, ce n'est pas vraiment la même façon de procéder, mais voilà. Donc, je préfère la nôtre, en fait.
Alors, Micheline Bellossian est toujours en direct avec nous. C'est la maman de Januel et de Willem Bellossian. Lorsque ce partenariat se crée entre le Stade Lamantinois et le Stade Rennais, il y a donc une porte qui s'ouvre et une possibilité pour votre fils de rejoindre la Bretagne et d'aller vers un centre de formation d'un club professionnel. Évidemment, il a du talent, donc il est repéré. Est-ce qu'au départ, ça vous fait peur ou vous vous dites c'est une opportunité fantastique pour mon fils?
Ah, je vous assure que j'ai eu peur. j'ai pas pensé à l'opportunité. J'ai eu très, très peur parce que tout au début, comme il partait en stage, il revenait. Il n'y avait pas de problème, mais quand il a fallu qu'il fasse les valises pour partir.
Je rappelle qu'il est venu en détection en 2017. Il est venu à Rennes en 2017 en détection. Il est venu faire des stages entre 2007 et 2020. Et en 2020, il est venu s'installer à Rennes.
Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que je ressentais.
Il est parti plus jeune que Willem.
Mais bien sûr, Willem n'est jamais parti. Willem partait tout le temps pour ses stages et ses compétitions, mais Willem n'est jamais parti.
Là, c'était des valises définitives.
Même dans ces cas-là, c'était le cœur de maman. Arrive à faire passer sa tristesse autrement.
Il ne le montre pas.
Il ne le montre pas.
Micheline, si je peux me permettre, c'était dans une sale période, la période Covid. Et ça a dû être compliqué à gérer pour la maman de Januel d'être loin de son fils dans toute cette période.
Voilà. Mais on l'a accompagné quand même. On a tenu à l'accompagner. Et comme le stade Rennais n'a pas été d'accord, bon, on est parti, on était à l'hôtel. Et comme il y avait... une restructuration, ils avaient une rénovation. Alors, on était dans le même hôtel. D'accord. Mais le jour de notre départ pour la Guadeloupe, alors là, je vous assure, pour moi, c'était, c'était déchirant.
J'imagine.
Pour lui, il est parti, il est venu nous dire au revoir. Il est parti à l'entraînement. Je lui ai dit bonne journée. Je suis partie à la gare. Nous sommes partis à la gare. Quand nous sommes arrivés à la gare, mon Dieu, alors là, je ne pouvais plus tenir.
Mathieu, toi qui es papa aussi.
Je ne pouvais plus me retenir.
Quand tu imagines tes fils partir aussi loin, est-ce que finalement pour toi c'est dur, mais est-ce que ce n'est pas plus formateur pour les enfants?
Évidemment que c'est formateur. Après là, c'est vraiment une distance qui est éloignée.
Ah, c'est ça le truc.
Moi, je ne l'ai pas connu.
Il y a 8000 km. Hein.
Exactement.
Traverse l'Atlantique.
Déjà, pour téléphoner, tu as un décalage horaire, tu n'es pas sur les mêmes habitudes, tu as un changement de climat aussi. T'as pas mal de choses qui diffèrent. Moi, je suis parti d'Évreux à Caen, c'est 120 km. Mon fils, il est parti de Caen-Wave.
Ouais, c'est ça.
C'est pas la même région, mais c'est pas si loin que ça. Mais bon, après, à 14-15 ans, quand tu n'es plus avec tes parents, tu as quand même un déchirement. C'est une épreuve pour tout le monde. Mmh. Après, moi, je sais que ça m'a fait le plus grand bien en tant que personne, et mon fils aussi, parce que ça lui a permis d'avoir une maturité plus précoce, d'être en avance sur tous les gamins de son âge, et que ça fait partie du métier, malheureusement. Alors, c'est difficile à vivre. Hein. On entend la maman, c'est triste.
Ah oui, c'est terrible.
C'est dur.
Les valises définitives.
Mais c'est important pour les gens qui vont nous écouter de se rendre compte que pour un enfant, c'est un traumatisme. Pour la famille aussi, c'est un déchirement.
Ouais. Moi, j'ai déjà eu jamais dans la vraie vie. Qu'un enfant
non, moi, j'ai eu des discussions avec ma mère il y a quelques années où, grosso modo, on me reprochait d'être parti à 13-14 ans en disant « tu nous as abandonnés ».
Ah ouais.
Tu vois, c'est des discussions où tu dis oh, pourquoi ? Ouais, maman, c'était mon rêve, mais oui, il manque quelque chose dans la famille. Quoi.
Sans trahir de secret, nous, on est assez proche de Jérôme Rotten qui bosse avec nous sur le Rotten sans flamme de 18h-20h et qui, lui, me racontait sa préformation à Clairefontaine. Ouais. Là, ils sont encore plus jeunes.
Ouais. Parce qu'ils avaient entre 13 ans. Là.
Entre 10 et 15 ans. Ouais. Donc, lui, il était à Meudon, mais il vivait.
Non, 13. 13 et 15.
13 et 15, aussi.
Ouais, c'est ça. Donc, il avait 13 ans. Il vivait au château. Ça se
mais son père, il était avec lui, je crois.
Bah, son père.
Non, non, mais, parce que son père est partout.
Son père l'emmenait. Son père l'accompagnait partout, effectivement. Mais tu rigoles, mais c'est à ça que je voulais en venir. C'est que Jérôme, le dimanche soir, en venait parfois à pleurer de tristesse de laisser ses parents, quoi. Bien et sûr. C'est un moment mais où les parents se demandent est-ce que je laisse partir mon fils ? C'est pour son bien, mais c'est difficile. Et...
C'est compliqué. Et là, je pense que, alors, encore une fois, on a connu cette situation, mais avec une proximité quand même. Là, tu as 8000 km. Tu ne peux pas prendre ta voiture pour aller voir ton enfant s'il a un problème.
C'est sûr.
Je veux dire, moi, demain, mon enfant, il est en prêt à Moave. Je prends ma voiture, j'y vais.
Bien sûr.
On peut régler le problème assez rapidement. Là, tu as 8000 km. C'est toute une organisation.
Alors, justement, j'ai une dernière question à Micheline. Est-ce qu'il y a un proche auprès de lui qui est là en cas de problème, en cas de coup dur, qui est là en métropole, qui peut justement rendre service à Januel s'il a besoin de quoi que ce soit ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous rassure ? Non ?
Et on n'a pas de proche, sur qui il peut compter.
Est-ce que Rennes s'en occupe du coup ? Est-ce que Rennes a mis en place quelque chose ? On a parlé comme voilà à Manchester avec Coton de Doigt à Schalke.
On nous autorise à venir dès qu'on le peut.
C'est Rennes qui paye les billets ?
Normalement, avant d'être à Rennes, d'être installé à Rennes, nous, on avait l'hébergement et les billets et on avait même la voiture.
Ah ouais ?
On avait même la voiture, oui. Et maintenant qu'il est installé, qu'il est pro, même avant d'être pro, on avait une enveloppe qui nous permettait de faire le nécessaire.
C'est important de le dire parce que c'est un effort financier pour le club. Pour un
ils sont obligés. Sinon, ils peuvent perdre le joueur.
Là, je vous assure, je ne sais pas si dans les autres clubs c'est pareil, ça se passe. Comme ça, mais nous, on a une enveloppe qui nous permettait de faire le nécessaire.
Bon. Micheline, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous entendre.
Il n'y a pas de problème. Tout le plaisir était pour moi.
Et nous, on va continuer de parler du sportif et du football. Hein, vous inquiétez pas.
C'est que le début, de toute façon.
Voilà, c'est que le début. Et de toute façon, vous êtes la bienvenue quand vous voulez à Paris, si vous voulez nous rendre visite d'ailleurs.
J'espère que je vous ai. Répondu.
Vous avez été parfaite. Et on a bien retenu que votre préféré, c'était Willem. Hein.
Non, j'ai pas dit ça.
Non, je plaisante. Merci Micheline.
J'ai pas dit ça. Nos enfants, ce sont les prunelles de nos yeux.
Hein. Évidemment. Merci Micheline. Merci. Bonne journée à vous en Guadeloupe.
Pour tous les parents.
Évidemment.
Bonne journée à vous.
Au revoir. À bientôt.
Bonne fin de journée, vous.
Eh oui, merci.
Allez, c'est gentil.
À très bientôt.
5 heures de
bientôt.
Moins.
Hein. Au revoir, Micheline. Et Gemaël est toujours avec nous, donc, en direct, lui aussi, de Guadeloupe. Là, c'est la partie plus sportive, évidemment. Gemaël, tu es le directeur de l'école de foot du Stade Lamantinois. On parlait de l'arrivée de Januel au Stade Lamantinois. Tu as vu tout de suite ses qualités. Quand le partenariat se monte, tu te dis c'est le profil idéal, justement, pour créer cette passerelle. Tu te dis c'est un des premiers joueurs qui partira en Bretagne.
Oui, nous on le pensait sincèrement. Et figurez-vous en fait que donc c'est Landry Chauvin qui était venu en fait sur une de nos séances en fait où il y avait les U11, les U13. Et en fait au premier abord en fait Landry n'avait pas vu Januel. Alors
j'ai entendu ça.
En fait on ouais c'est ça à l'époque c'était ça. Donc nous on plaçait tout vers Januel. En fait lui il a vu un autre petit d'ailleurs qui a signé à NS au Stade Rennais aussi. Le petit de 2007. Et par la suite, en fait, il a bien vu que Januel avait un fort potentiel. Mais au départ, en fait, il n'avait pas vu Januel, il avait vu un autre joueur.
Et c'est toi qui l'accompagnes en 2017 pour son premier voyage à Rennes.
Exactement, on y va à deux en fait. En fait, on l'avait vu en Guadeloupe, puisque Philippe Barrault, le directeur du recrutement du Stade Rennais, était venu en Guadeloupe. Donc il avait fait une contre-visite de Landry. C'est comme ça que ça se passe. Hein. En fait, le directeur vient, le responsable du recrutement vient, ils se mettent d'accord en fait sur les joueurs qu'ils ont vus. Et à partir de là, en fait, Januel a été invité à Rennes pour un stage élite. Donc avec d'autres garçons, le stage élite, en fait, c'est tous les recruteurs du Stade Rennais. Ils ramènent en fait les garçons qu'ils ont vus en fait dans leur secteur. En fait, Januel avait été invité sur ce stage élite. Et lors de ce stage élite, en fait, quand on a été à Rennes, en fait, lui, Januel, en fait, il a participé en fait à un tournoi U12 avec les U12 du Stade Rennais avant le stage élite. Donc c'était à Limonest, à côté de Lyon.
Ouais.
Et en fait, ça s'était pas très bien passé parce que Januel souffrait en fait du genou. En fait, il avait des petits problèmes de croissance. Donc c'était un peu mal embarqué. Mais en fait, il a serré les dents. Januel, c'est un garçon qui a beaucoup de détermination. Et qu'on est remonté sur Rennes, en fait, le stage a commencé. Et là, il a vraiment été exceptionnel. Et là, on a retrouvé en fait le vrai Januel. Et là, il a mis tout le monde d'accord. Et je me rappelle en fait du bilan en fait du stage élite où il y avait tous les recruteurs. Il y avait Landry Chauvin, il y avait Philippe Barrault qui était responsable du recrutement. Et là, tout le monde était d'accord pour dire que Januel, c'était un top joueur. Et donc, moi qui venais de Guadeloupe, j'étais assis là, j'étais vraiment très ému.
Bah oui, c'est sûr.
C'était super.
Avant d'enchaîner sur Januel, qu'est-ce que à toi ça t'a apporté en tant que formateur de faire des stages à Rennes, de voir comment bosser dans un club professionnel en métropole ?
Alors déjà, moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est l'accueil, en fait. Hein. Puisqu'en fait, nous, on sortait de Guadeloupe, mais les éducateurs du Stade Rennais nous mettaient vraiment à l'aise. C'était vraiment impressionnant parce que nous, on se dit, bon, voilà, c'est le monde pro, c'est quand même le Stade Rennais, nous, on vient, mais non, tout de suite, ils nous ont mis à l'aise. On a vu, en fait, les méthodes de travail. Alors, c'est rien de compliqué, c'est rien de compliqué, mais c'est vrai que, bon, déjà, au niveau des infrastructures, les terrains, les garçons, c'est un peu plus facile, on va dire. On va dire ça comme ça, la qualité qu'ils ont. Mais pour nous, c'est extraordinaire. Donc, nous qui sortons de Guadeloupe, c'est extraordinaire.
Évidemment.
Rien que les infrastructures, c'est génial.
Alors, on l'a dit, Januel est issu d'une famille de champions. Son frère William est vraiment connu en France au niveau de l'athlétisme du 110 mètres haies. Il a été, je le disais, donc champion du monde junior, donc il y a quand même une perf incroyable. Il a même le record du monde junior à une période. Donc, c'est un grand espoir de l'athlète, même s'il n'a pas pu défendre ses chances à Tokyo au jeu d'été en août dernier. Il nous a parlé, William, il a parlé à Loïc Tanzi, il lui a envoyé des petites notes vocales et on va pouvoir l'entendre, notamment sur ce que ça apporte à Januel d'avoir un frère sportif de haut niveau, l'expérience de haut niveau de William, ce que ça peut apporter à Januel. Écoutez.
Je pense qu'il s'appuie sur mon expérience de sportif. C'est sûr que c'est une motivation pour lui aussi d'exister, en fait, non pas le petit frère en fait, de William, mais le Bélocian, le Januel Bélocian. On est issus de deux sports différents, on converge tous vers la même expérience et je pense que oui, c'est un.
Alors Mathieu, c'est deux sports différents, oui. Mais est-ce qu'il peut y avoir justement une aide de Willem envers Januel ? Effectivement, la gestion du stress, peut-être toutes ces choses-là.
Il a connu comme des compétitions mondiales. Il a fait les JO, je crois, une fois.
Oui, une fois, ouais. Ouais. Il Rio, je crois. Ouais.
Il a fait les JO, donc c'est comme, pour un sportif, c'est quand même le summum. Je pense qu'il peut le conseiller. Et puis après, même, il y a quand même des similitudes. Tu sais, dans le football, l'athlétisme, ça peut aider. Sur la façon de courir, sur la bien façon sûr. De se déplacer.
Mbappé l'a fait notamment.
Exactement.
Et ça se voit au niveau du pied, ouais. La façon de courir.
Oui, ouais. C'est sans aérien, la façon de lever les genoux, les bras, etc. Donc je pense qu'il peut donner des conseils là-dessus. Mais surtout sur la gestion des événements, du stress, et je pense que c'est important. Ils ont quand même 10 ans de différence. C'est pas anodin, et surtout vu la carrière qu'il fait en athlétisme, c'est quand même du haut niveau.
Qu'est-ce que je me suis posé comme question ? C'est est-ce que l'aîné Bodmer aide le cadet Bodmer ?
Oui.
Parce qu'il y a très peu d'écart entre les deux.
Il y a deux ans.
Mais quelle relation ils ont, tes fils, d'ailleurs ? Ils sont tous les deux en club professionnel.
Les deux sont très introvertis.
Ouais, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que
c'est générationnel.
Ça. Ouais, quand ils se parlent déjà.
Ils s'envoient un pouce.
Pas loin. Ils s'envoient un WhatsApp avec un clin d'œil. Mais non. Mais tu vois, par exemple, pour la prépa de la saison dernière, parce que mon premier est très assidu et très. C'est un gros travailleur. Le deuxième. Très bon joueur de foot, mais un peu plus en dilettante et nonchalant, un peu comme son père, voire beaucoup comme son père. Mais tu vois, il a pris son aile sur la prépa. Voilà, en disant, voilà, moi, il avait le planning N3, parce qu'il a repris avec la N3, donc beaucoup plus dur que le petit qui reprenait avec le 17. Et ben, le petit a fait le planning N3 du Havre.
Ah,
d'adulte, quoi.
Ouais. Parce que le grand lui a dit fais ça, dit, tu seras plus costaud.
Avec moi, alors j'avais parlé avec mon grand en disant essaie de le traîner un peu avec toi, ça va l'aider un peu. Okay. Et puis le premier jour, et puis le deuxième il a demandé, et puis le troisième, et puis au final ils ont fait les, alors, je sais plus, c'était sur 15 jours à peu près le programme, les 15 jours ils ont fait ensemble.
Même en étant introverti, ils se confient un peu sur leurs doutes, leurs trucs. Non, leur... non pas trop.
C'est compliqué.
Ouais, c'est dur.
C'est compliqué. C'est là, et puis on est normand.
Ouais.
Très têtu.
Ouais.
Une grosse fierté.
Ouais.
Donc,
oui, mais entre eux, tu pourrais te dire.
Ouais,
pourtant,
non.
Tanzi, il n'est pas normand, je comprends rien.
Non, bah, nous,
non compliqué, pas, mais tu sais, nous, les Normands, sont un peu de, on n'est pas des grands communicants.
Ouais,
on
ouais.
se renferme beaucoup et ils sont comme ça.
Ouais, c'est vrai. On n'est pas content. Ouais, on a tendance à le dire.
Exactement. Ouais, non, mais c'est important. Puis en plus, on a posé la question à Willem, qu'est-ce qu'il lui apporte, donc pas au niveau football, mais justement, c'est plutôt l'aspect mental, vous allez voir.
Je l'accompagne plus, en fait, sur le plan mental, pour l'encourager, voilà, pour. Toujours le motiver, toujours le booster. Ah, mais sur le plan physique, c'est lui et seul lui en fait, qui sait en fait, ce qu'il doit travailler, etc. Et il a son préparateur physique, il a son kiné, son staff médical qu'il suit. Donc voilà, il est bien suivi. Ouais.
Mathieu, c'est incroyable aujourd'hui. 2005, déjà un prépa physique, déjà un staff médical qu'il suit. Mais tous les joueurs quasiment maintenant.
Ouais, tous les joueurs.
C'était pas comme ça à ton époque.
Non, bah non. Il n'y avait même pas de prépa physique dans le club.
Bah, ouais, c'est ça. Bah, ouais.
À l'époque, t'arrivais, ton coach, il faisait tout.
Bah, oui.
Il était diplômé, il faisait la prépa physique. Bientôt, il entraînait les gardiens, j'abuse un peu, mais pas loin, quoi. Il avait un seul adjoint. Aujourd'hui, t'arrives dans une structure professionnelle, c'est élargi. Et les joueurs, avec leurs agents, souvent, t'as un prépa physique ou un kiné qui sont mis à disposition, alors, soit par la famille, soit par les agents. Mais même moi, mes fils, ils en ont. Tu vois, quand c'est la pré-saison, on prend alors soit leur mère, soit moi, ça dépend où ils sont en vacances, on prend un prépa physique.
Okay. Là, ils sont représentés par la même agence qu'Olivier Giroud.
Mais c'est comme ça, c'est dans l'air du temps. Et après, je pense que, je ne vais pas dire que tu n'as pas le choix, mais comme ça va jouer tellement sur des détails, il faut que tu essaies de mettre un maximum de chances de ton côté.
Bien sûr.
Ça, c'est sûr. Jemaël, donc vous l'avez connu tout jeune. Là, vous l'avez vu partir à Rennes. Vous avez un contact régulier avec lui. On a parlé de ses qualités, de sa polyvalence, de pouvoir jouer au milieu de terrain et derrière. Il a quand même des axes de progression pour vous? Il y a des secteurs où il peut améliorer son jeu?
Oui, mais après, nous, on l'a vu partir très, très tôt. Mais c'est vrai que quand il est parti, parce qu'en fait, on était souvent en lien avec Cédric Vanuka. Et en fait, il nous demandait toujours de travailler l'axe, en fait, toujours percuté par rapport à son poste où il était avant milieu défensif.
Mm-hmm.
C'est vrai voilà, il était passé box-to-box. Donc, c'était cet axe, en fait, où il fallait peut-être améliorer les choses. Prendre des risques, aller vers l'avant, casser des lignes. Et bon, je pense que là, il a su faire en sorte d'améliorer ça. C'est un garçon qui est super à l'écoute. C'est une vraie éponge. Vous lui dites ça, il est mis en pratique.
Mm.
Et ça va lui permettre d'avancer très vite. Et d'ailleurs, je ne suis pas étonné en fait, de voir où il est parce que ouais, c'est un garçon qui est super, super à l'écoute.
Et physiquement, il joue avec la N3 en ce moment. Est-ce qu'il est... Comment s'est passé le passage entre le football de jeunes et le football d'adultes avec la National 3? Parce que 2005 en N3, ça reste jeune. Hein.
Ouais.
Alors moi, je l'ai eu. Moi, il m'a dit qu'il prend plaisir en fait, hein, avec la N3. Il prend plaisir dans son nouveau poste. On a discuté, notamment le dernier match où il est rentré qu'il a fait avec les pros en amical face à Lorient.
Ouais.
Je l'ai eu vite fait pour savoir comment ça s'était passé. Il m'a dit que c'était super bien passé, qu'il apprécie son nouveau poste. Donc voilà, il est sur la bonne voie.
Il s'entraîne avec les pros tout le temps maintenant. Oui, par moment.
Il s'entraîne avec
les pros.
Il monte
en ligne. Il a appelé, des fois il redescend. Ouais, voilà. Il fait le vice-versa. Des fois il va avec eux, des fois il redescend avec toi. Donc voilà.
Mm.
Mais là, il était dans le groupe, là, les deux derniers matchs, il était dans le groupe. Mais
en Ligue 1,
oui, en Ligue 1, c'est ça, ouais.
Mais d'ailleurs. Ah pardon, mais on voit encore le jeune Warmed Omari que personne n'avait vu venir,
ouais.
Qui sort du centre, qui est énorme, qui a pris la place de Loïc Badé, qui avait acheté très cher l'été dernier. Bruno Genesio, l'entraîneur de l'équipe première, n'hésite pas à le mettre titulaire devant Badé avant qu'Agard parte à la Coupe d'Afrique avec le Maroc.
Mmh.
À Rennes, on fait confiance aux jeunes, mais surtout, on a un vivier exceptionnel. Mathieu, comment tu l'expliques? Kamavinga, Hugo Chokou, qu'on a vu dès le début de saison, là encore. Matistel qui commence à sortir.
Donc, il y a plein Abin qui a été prêté maintenant.
T'as eu Ousmane Dembélé avant.
Ouais. Oui, Ousmane Dembélé.
C'est encore incroyable.
Tu vois, mais non, mais cette année, c'est tous les ans. Mais comme on l'a dit, ça fait des années que ça travaille très bien.
Mais comment tu l'expliques? C'est la façon de travailler avec les jeunes, c'est la façon de les recruter.
Ils recrutent très bien.
Ouais. Ils recrutent bien, ouais,
déjà. Ils sont souvent sur la région parisienne, mais on le voit là, ils vont en Guadeloupe. Moi, c'était quand j'étais président du club des Vaud, donc il y a plus de 10 ans, c'était un des clubs qui venait tous les samedis.
Un recruteur tous les 5
ouais. Ouais. On a un gros vivier, mais il y a beaucoup de clubs pro qui ne venaient pas à Évreux. C'est comme ça qu'ils font Ousmane Dembélé à l'époque, parce qu'ils sont là tous les samedis à le voir. J'avais discuté avec le recruteur qui l'avait vu c'était 30 ou 40 fois. Quand même, alors bon, au bout de 10 minutes, tu savais que c'était un gros potentiel, mais pour être sûr de ne pas se tromper.
Ouais.
Ouais, tous les week-ends, je le voyais, il faisait son rapport, machin. Ouais, bon, tu viens pour qui tous les week-ends? Je disais, est-ce que tu viens pour un autre joueur? Non, je viens pour Ousmane encore, voir toutes ses qualités, tous ses défauts. Mais surtout, après, c'est la façon de travailler au centre. Ils ne sont pas nombreux. On a souvent parlé, je t'avais dit, ouais, voilà, ils sont 25 par génération dans tes clubs. Quand j'avais été à Rennes, j'avais visité le centre il y a 3 ans, je crois, maintenant. Ils étaient entre 15 et 20 par année.
Parce qu'il y a une équipe, quoi.
Tu vois, c'est pas énorme.
Ah non, c'est pas énorme.
Avec beaucoup de surclassement et ça va très vite, en fait. Ouais. Tu vois, ils sont vraiment sur un poste spécifique, un ou deux joueurs au poste maximum. Il n'y a pas 3-4 gardiens au même la même génération comme dans d'autres clubs. Il n'y a pas 3-4 numéros 10. Voilà, ils prennent la qualité au démarrage. Ils ont des moyens financiers, il faut le dire aussi. Ils sont capables, sur un joueur de 13-14 ans, de mettre de gros moyens financiers.
Enfin, il y a des résultats. Hein.
Mais derrière, ils forment énormément. Et puis surtout sur l'équipe première, et c'est ça où c'est important, et je pense que les gamins, ils sont à l'écoute de ça, c'est que tu peux jouer.
Bah oui. Et c'est la fameuse vitrine
de Rennes. Sofiane Diop à Monaco, formé à Rennes. Bah oui, sur Isidore qui est parti à Moscou, formé à Rennes.
Ouais, t'en as plein.
Et ils en perdent un petit peu, mais.
Ils en ont perdu quelques-uns. Dacunha aussi, je crois, qui est à Rennes.
Dacunha, exactement.
Je dis pas de bêtises.
Ritter qui est parti à Hoffenheim maintenant.
Ouais, ouais.
Mais allez même chercher dans la division inférieure. Moi, j'ai connu Jordan Tell qui était à Clermont,
bien sûr.
Et à Grenoble qui sort de Rennes.
Il y en a un qui est en train de revenir en pleine forme, c'est Wesley Saïd.
Voilà,
c'est
vrai. Saïd,
était dans la génération 95 qui était très très bon à Rennes.
Exactement.
Mais depuis on va dire une quinzaine d'années maintenant, tu as eu beaucoup de joueurs et des joueurs confirmés. Gourcuff, j'en passe plein. Il y a eu des gros joueurs, même pour l'équipe de France.
Ouais. Et ouais, parce que c'est un vivier pour l'équipe de France, évidemment, le Stade Rennais. On va justement pouvoir en parler par rapport à Januel, qui a connu justement l'équipe de France U17. Mais vous le savez, scouting, ça grandit. Scouting, ça commence à faire parler et ça fait réagir dans le petit monde justement du scouting, voilà, de la façon de repérer les jeunes cracks. Et notamment, un de tes amis, Loïc, qui t'a laissé un message parce qu'il savait qu'on allait parler aujourd'hui
qui suit
de Januel
Bélossian.
Victor Pedel,
c'est ça.
Voilà, qui gère le compte en fait Insta Crack World sur Instagram. Et justement, c'est un des profils qu'il connaît le mieux. Écoutez l'avis de Victor, justement. Ce qui lui l'a marqué, un événement marquant cette saison pour Januel, c'est lorsqu'on lui a remis le brassard de l'équipe de Gambardella à Rennes. C'est quand même quelque chose, parce que c'est la vitrine des jeunes à Rennes. C'est lui qui a porté le brassard lors du match contre Bordeaux. Écoutez.
On l'a vu en Gambardella contre Bordeaux. Laurent Viau lui avait confié le brassard alors qu'il avait des joueurs plus expérimentés parmi son effectif. Et je trouve ça significatif. Je pense que Januel, il doit encore progresser au niveau de sa personnalité du fait que ce n'est pas encore un leader. Il va avoir besoin de le devenir d'autant plus au poste de défenseur central, qui est un poste où on a des responsabilités conséquentes, notamment dans les duels. Et je pense que ça lui apporterait un plus aussi au niveau de la confiance. Il aura besoin d'expérience dans ce rôle-là, que ce soit pour avoir les réflexes ou encore savoir comment gérer une situation particulière.
Mathieu, Victor nous parle de leadership. Comment tu deviens leader pour un joueur comme ça?
C'est pas simple. Tu as des garçons qui sont introvertis, qui ne le seront jamais. Dans la parole, je parle. Mmh. Hein. Sur le terrain, après, c'est les actes. Et puis, tu en as d'autres. Après, pour moi, c'est 17, 18 ans, c'est une période charnière. C'est là où tu te révèles. Et je pense que le fait qu'il lui donne le brassard, dans l'équipe, tu as des 2004 qui devaient être là ce jour-là, des joueurs avec plus d'expérience, c'est justement peut-être pour le pousser à dépasser sa fonction, prendre un peu la parole. On avait vu Inas Alargué qui avait expliqué la dernière fois pourquoi il m'avait donné le brassard à 16 ans. C'est pour que tu t'exprimes, tu prennes de la confiance, tu dis voilà, t'as le brassard, t'es légitime parce que t'es bon sur le terrain, t'as le droit de parler, t'as le droit de faire un petit peu plus que ton rôle. Le fait de jouer en défense, je suis d'accord avec son analyse, tu deviens un peu plus leader qu'au milieu. Alors je veux pas dire qu'au milieu t'as pas de leader, c'est pas ça. C'est que quand tu es derrière, tu as un rôle qui est très important. Tu vois tout le jeu, tu es obligé de diriger ta défense.
Et ouais.
Quoi qu'il se passe, tu es obligé de placer tes milieux de terrain, tu es obligé d'avoir une relation avec ton gardien. Donc souvent, tu regardes, surtout les catégories comme ça, souvent le capitaine, c'est le dev central.
Ouais.
En jeune, en général.
Ouais, c'est vrai.
Parce que c'est celui qui a déjà plus de maturité, qui a un peu un œil sur tout le jeu, tout ce qui se passe. Donc ça peut lui permettre de passer un cap, en tout cas, sur la stature.
Mais c'est intéressant l'importance ce que tu dans le groupe. Ça veut dire qu'il ne faut pas se forcer à l'être non plus. C'est-à-dire que si tu as vraiment un caractère très introverti, même si le joueur est pétri de qualité, il ne faut pas le forcer à être capitaine.
Non, parce qu'après, ça peut être contre-productif pour moi.
Voilà.
Après, comme on l'a toujours dit, tu as différents leaders. Tu as le leader technique. Ouais. Celui, quand il prend le ballon, il va faire des différences et amener l'équipe d'une façon positive.
Dans les moments chauds, on le cherchera lui.
Voilà, quand l'équipe est en difficulté, tu donnes le ballon, il te sort du truc, il rassure les gens.
Ouais.
Tana, c'est par la parole. Tana qui, tu vois, moi, je parlais beaucoup sur le terrain, mais très peu dans les vestiaires.
Ouais.
Parce que pour moi, c'était inutile de parler avant le match. Tout le monde savait ce qu'il allait faire. Par contre, sur le terrain, je faisais que parler. Mets-toi à droite, mets-toi à gauche, avance, recule, etc. Et les mecs, ils me disaient, c'est le jour et la nuit.
Ouais.
Je dis, mais parce que dans le vestiaire, en fait, ça ne m'intéresse pas. Te dire, allez, les gars, on va faire un bon match, machin et tout. Je disais, ouais, mais on est tous là, on sait pourquoi on est là. Par contre, sur le terrain, je pense que c'était important. Et puis, tu as des leaders où c'est sur le terrain, ils ont besoin de parler énormément, de crier, d'aboyer, parce que c'est leur truc.
Alors, Gemaël, d'accord avec ce qu'on vient de dire. C'est peut-être là aussi un axe de progression. Pas le caractère, mais la façon de l'exprimer, en tout cas, de devenir un leader d'équipe et de vestiaire.
Oui, je pense que c'est plus ça. Mais en fait, chez nous, c'est vrai que Gianella a souvent été capitaine, leader. Donc, je pense que ça, c'est peut-être juste un déclic. Parce que bon, là, il est quand même dans un monde professionnel. Je pense qu'il est encore jeune. Je pense que ça viendra. C'est un garçon qui, naturellement, sur le terrain, c'est un leader. Alors, comme Mathieu le disait, ça peut être plus un leader technique. Mais c'est un garçon qui, voilà, je pense que ça viendra.
Est-ce que c'est pas une chose aussi que t'apporte le fait de monter chez les pros, même si tu joues pas, t'es sur le banc? La confiance quand tu redescends, bien derrière.
Bien sûr. Après, des fois, tu peux avoir un excès de confiance aussi.
Ouais.
De dire, je redescends en 17, en 19, etc. Ça va être facile. Alors que les catégories de jeunes, et tu connais la Gambardella notamment.
Il peut jouer en U17, hein, quand même, aussi, là, avec le groupe pro, mais il peut jouer en U17.
La Gambardella, le niveau, tu sais que c'est des matchs compliqués.
D'accord. Quand tu t'entraînes avec les pros, tu es peut-être vu différemment par tes potes des U17 et des U19.
Mais quand tu redescends.
Bah oui.
J'aime pas dire ce mot-là, mais tu redescends comme une star un peu.
Bah oui.
Les jeunes, ils s'entraînent avec les pros,
bah oui,
il a fait un bon de touche en Ligue 1 contre. Neymar, peu importe, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est le regard des gens qui va changer.
Bien sûr.
Mais l'attente est différente. Parce que sur le terrain, maintenant, il faut que tu fasses gagner ton équipe. Mais que tu sois arrière-gauche ou attaquant de pointe, on ne doit pas perdre quand tu es sur le terrain.
Alors, on le disait, il y a eu ce moment de fierté pour tout l'entourage, toute la famille, novembre 2021. Signature du contrat pro, alors que c'est un tout jeune joueur. Il a signé jusqu'en juin 2024, Monsieur Tanzi. On est d'accord, il a signé 3 ans.
Max, bientôt, on espère 5 ans. Enfin, 5 ans, ouais.
Avant d'entendre Gemaël sur sa fierté, j'imagine, de voir Januel signer pro, écoutez Willem, parce que Willem est sportif de niveau. Est-ce qu'il a eu son mot à dire dans les négos ou est-ce que finalement il laisse ces sujets-là gérés par la famille et par l'entourage au niveau des agents de Januel? Écoutez.
Concernant les discussions en fait concernant l'avenir de Januel, j'ai préféré me mettre à l'écart et justement laisser mes parents gérer cela. Moi, je sais que c'est dans le milieu du foot, c'est pas pareil que l'athlète, mais je suis quand même au courant en fait de ce qui se passe.
Quand je l'ai écouté, je me suis dit ça va plaire à Mathieu, c'est le meilleur discours possible. C'est pas son domaine, même s'il est sportif de haut niveau, il laisse gérer ça aux pros et à ceux qui
Il va aider son frère dans ce qu'il sait faire de mieux.
Voilà.
Et ce qu'il sait pas faire. Moi, c'est une forme d'intelligence tout ça.
Ouais.
C'est comme sur le terrain, j'ai joué avec des joueurs qui savaient pas faire une transversale quand il la tentait pas.
Voilà.
Et les gens disent ouais c'est pas fait un transfert. Je dis oui mais il fait ce qu'il sait faire, il fait très bien. Ce qu'il sait pas faire, il y va pas. Et je pense que c'est une forme d'intelligence. De voilà, tu vas aider ton frère. La négociation, le monde du football, je le connais pas. Je laisse ça aux gens compétents.
Pascal Floch aujourd'hui, l'agent de Bélocian, qui est très proche du Stade Rennais, qui est toujours dans l'entourage du Stade Rennais. Donc c'est un agent qui a été choisi pour justement mener à bien les négociations avec le Stade Rennais.
Gemaël, quand on emmène un jeune garçon avec soi en tant que directeur de football du Stade Lamantinois, qu'on le voit signer pro au Stade Rennais, c'est une énorme fierté, évidemment.
En fait, ça nous ramène à ses débuts, en fait. On revient à le gamin, il avait 7 ans, 8 ans, et là, on voit qu'il signe pro au Stade Rennais. C'est une énorme fierté. Mais là, c'est même plus la fierté du Stade Lamantinois, c'est vraiment une fierté de toute l'île, en fait, de toute la Guadeloupe. Et franchement, c'est génial. On ne se rend peut-être même pas compte, en fait.
Eh oui.
Mais c'est énorme. Faire ça aussitôt, venant de la Guadeloupe, 8000 km, qu'on le répète souvent, mais c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et attendez qu'il joue en Ligue 1.
Voilà, maintenant, on veut le voir en Ligue 1. C'est ça, en fait.
C'est clair.
Exactement.
C'est sûr.
Et juste un dernier mot. Sur le partenariat avec Rennes, il n'y a pas une idée, je ne sais pas, d'organiser un stage hivernal en Guadeloupe pour les pros? Tout ça, ce n'est pas dans les tuyaux, en accord avec le Stade Lamantinois, non? On n'y pense pas, tout ça?
Alors, peut-être pas pour les pros, mais à un moment donné, on avait échangé, mais de manière informelle, on avait échangé plus pour la N3.
D'accord.
Plus pour la N3, de venir en Guadeloupe, faire un stage. Ouais, non, mais pas les pros. Mais plus pour la N3, c'était.
Très bien.
Ouais, on avait parlé de ça. Après, le Covid est arrivé, donc.
Ouais. Et si jamais.
En question pour le moment.
Si jamais ça se monte, on peut venir?
Mais bien sûr.
Bien sûr. Moi, il suffit que je mette une veste de Rennes, ça me dérange.
Nous, on n'a pas d'enveloppe pour le coup, pour revenir.
Pas d'enveloppe.
On n'a pas d'enveloppe.
On aura Karim Nedjari, notre patron.
Malheureusement.
C'est pas sûr. C'est pas sûr. Gemaël, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On souhaite le meilleur à Januel, évidemment. Et puis, aux jeunes du Stade Lamantinois, vous le disiez, il y a un 2007 qui a signé.
Il y a un 2007
qui a déjà signé à Rennes.
Oui, on a donc Lucas qui a signé, Lucas Rosier qui a signé avec eux. Mmh. Donc lui, il va partir à la fin de saison. Hein. Il va rentrer au centre de formation en juillet. Et on a aussi Henri Solvay, toujours 2007. Lui, c'est du côté de Reims. Bon, on a deux jeunes qui vont partir. Et là, ils sont.
Lucas Rosier, rien à voir avec Valentin. Guadeloupe.
Non, rien à voir. Okay. Rien à voir.
Okay. Gemaël. Voilà. Là, on fait les 2004-2005. On s'appelle dans deux ans, du coup, pour parler des autres petits du stade.
Ouh, attends, on va à la fin de la saison. On va certainement passer à certains 2006.
Ouais, il y en a qui arrivent très vite. Ouais,
t'inquiète pas, on passera en 2006 avant la fin de la saison. Donc ça allez, arriver vite.
C'est le problème, nous, on prend 3 ans par année.
Ouais, c'est ça. Exactement. Merci, Gemaël. Au revoir, à bientôt. Bonne journée.
Au revoir, merci. À bientôt. Bonne journée.
Et nous, on entre tout de suite dans le monde de Gourou.
Dans le monde de Gourou.
Le monde de Gourou, donc, avec ce joueur dont on a parlé cette semaine, Januel Bellossian, joueur du Stade Rennais, Gourou. Est-ce que c'est un de tes titulaires au Scouting FC? On rappelle que le Scouting FC, d'ailleurs, c'est l'équipe que tu as lancée dans Football Manager. Tu as remplacé le Stade de Reims.
Eh oui.
Et tu exactement. As fait une équipe avec tous les jeunes talents dont on parle.
On,
donc,
on a fini, dernier épisode, notre deuxième saison.
Et voilà.
Où oui. On était champion de France, voilà. Qualifié pour la Ligue des Champions.
Je t'ai prolongé à 9500 euros par mois, voilà. Ça je m'en rappelle.
Donc on vient de terminer deux saisons pleines avec le Scouting FC.
Exactement.
On n'avait pas trop perdu de joueurs. Et donc là, on vient de terminer le mercato, en gros, de la deuxième saison. Oui. On entame là aujourd'hui, on fait les six premiers mois de la troisième c'est saison ça. De l'histoire du Scouting FC.
Bravo, là, nous sommes le 22 janvier 2024.
Ouais.
Bellossian est la doublure de El Shaddai.
Donc il est toujours au club déjà. Oui. 2h30.
Il est arrivé à la saison là.
Ok. Donc on l'a recruté cette saison là.
Et quand tu dis doublure, ça veut dire que tu le fais jouer régulièrement.
Ils font la rotation.
C'est pas le genre de joueur que tu fais rentrer. C'est-à-dire que tu le fais jouer sur un match sur deux ou un match sur trois.
Avec la tactique qu'on a, c'est surtout les ailiers et le 10 que j'ai besoin de.
Appelle-nous la tactique.
C'est ça.
Appelle-nous la tactique.
Je suis en 4-2-3.
Ouais. Exactement.
4-2-3-1, donc ton défenseur central, quand il démarre le match, en général, il le termine.
Ouais, ça termine en défense.
Okay.
Et donc, tu as fait venir Bellossian au début de la saison 2023-2024.
Ouais.
À ce moment-là, est-ce qu'il est abordable financièrement? Parce qu'on l'a déjà fait deux ans.
Il est abordable. Il me semble, dans le jeu, il n'a pas, à l'inverse d'autres joueurs qu'on a pu traiter, il n'a pas une marge de potentiel exceptionnelle.
Donc, il n'avait pas joué en Ligue 1 encore avec Rennes?
Non, ou alors il a dû faire une entrée, quelque chose comme ça.
Okay.
Mais rien
donc,
de bien.
Pour le faire venir, t'as pas eu trop de soucis?
Oui, non, il n'y avait pas de problème.
Okay.
Il y a eu des soucis avec d'autres joueurs, mais à lui...
Tu sais combien on l'achète? Parce que c'est moi qui fais l'échec, quand même.
Ouais. Il arrive à moins d'un million.
Ah oui, ça me va. C'est bon, Loïc, c'est bien négocié.
Un million d'euros, c'est bien, mais c'est, tu verras, on fait venir. Là, c'est l'exemple type, parce que d'habitude, on a commencé l'équipe avec des joueurs qu'on avait déjà mis dans notre équipe. Là, c'est un joueur qu'on a été chercher à Rennes au début de la saison pour le faire venir à moins d'un million d'euros. On verra dans 5-6 épisodes, donc dans 2-3 ans dans le jeu, où on va être avec Bellossian et combien on va vendre Bellossian. Je rappelle qu'on a refusé pour El Shaddai 72 millions d'euros.
Il y a eu de très très grosses offres sur El Shaddai.
Et alors tu vas me le reprocher toute ma vie, ça?
Non, c'est pas grave.
Bon, merci.
Mais finissons déjà le mercato. Avant de commencer les résultats sur ces six premiers mois, comment on a terminé le mercato?
Il y a que ça qui t'intéresse.
Non, mais on va faire chronologiquement.
Alors, il n'y a pas eu de départ. J'ai juste du coup géré la finalisation de Bellossian.
Ouais.
Et il y a eu d'autres offres, mais rien qui sortait qui était
donc
digne.
On a gardé notre équipe.
On a gardé toute l'équipe intact. Pour les six premiers mois de la saison en tout cas.
Alors permettez-moi, il y a une question dont on parle jamais. C'est on a des joueurs qui performent bien.
Très bien. Ouais.
Des joueurs qui cartonnent en Coupe d'Europe, évidemment. On va pouvoir en parler. Est-ce qu'ils font des demandes de salaire importantes? Est-ce qu'il y a des gros salaires au Scouting FC?
Le plus gros salaire à l'instant T, je crois que c'est la prolongation de El Arouche ou El Shaddai, l'un des deux, est passé à 200 000 mensuels.
Ah, quand même, ouais.
Le reste de l'effectif...
Alors, les champions de France,
attends. Ah, c'est vrai.
Le reste de l'effectif est à 90 000 et après 50 000, 20 000, 10 000.
Enfin, ah, ça descend très vite. Bon, très bien. Okay.
On en est où, le mercato. Allez, on en est où de cette fin de mercato? On a gardé tout le monde.
On a gardé tout le monde.
On passe à la saison, pardon.
Alors oui, la saison sportive, on est donc en janvier 2024.
C'est ça.
Année importante, Jeux Olympiques.
Oui.
Attention.
Et on a eu du monde au JO.
Voilà.
Une quinzaine de joueurs dans l'équipe jeune.
Des JO?
Bah les JO,
15 joueurs.
6 mois. Ce sera dans 6 mois.
Les JO, oui, c'est la saison.
Ah ouais, des joueurs qui sont...
C'était l'Euro U21.
C'est 2023, l'Euro 2021.
Où on a eu tout le monde qui sont champions d'Europe.
En juin 2023, c'est l'Euro 2021.
Ah,
ils ont été champions d'Europe en plus.
Oui, ils sont champions d'Europe.
Oh là là.
Lionel Rouxel peut nous dire merci.
15 joueurs, c'est quand même énorme. 15 joueurs en espoir.
Ouais.
C'est quand même.
Après,
on a le scouting FC. Quoi.
On a amené tous les. On les a tous pris.
Alors, ah ouais, en même temps, j'ai.
C'est le but.
On prend des 2004.
Oui.
De base, ou 2005 pour Matistel, El Shaddai ou Belossian, par exemple, cette semaine, c'est de tous des joueurs qui ne sont normalement pas en espoir au début quand on les prend.
Et pour en venir à Januel, est-ce que le fait qu'il soit intégré à la rotation mais que ce ne soit pas un titulaire à part entière, ça freine un peu sa progression? Est-ce qu'il progresse moins vite qu'un joueur qui joue beaucoup plus régulièrement?
Il progresse nécessairement moins vite, mais moi, de ce qui m'est possible de faire, je n'ai pas grand-chose d'autre. Il y a des joueurs qui sont numéro 3 ou numéro 4 dans les rotations dans certains postes qui sont mis à disposition de la N2. Donc, il a quand même un petit peu de temps de jeu, même quand
pour
il ne joue pas
de
la
N2
Ligue 1.
Qu'on doit avoir, Loïc.
Ouais. Bah,
oui, c'est nos jeunes joueurs créés qui sortent du centre. Mais enfin, il a un minimum de temps de jeu. On a surtout de très bons entraînements qui sont faits.
Là, il va avoir 19 ans donc, dans le jeu dans quelques jours. Il est né le 17 février 2005, Belossian. Donc, il a 19 ans. Donc, pour l'instant, qu'il ne soit pas encore titulaire, ça va, il est encore très jeune.
Alors,
dans le jeu.
Le niveau qu'il a actuellement, est-ce qu'on peut dire que c'est un bon joueur de Ligue 1 déjà?
Je ne dirais pas que là, à l'instant T, c'est un bon joueur de Ligue 1. En fait, moi, j'ai l'impression que notre effectif, d'une manière générale, surperforme beaucoup par rapport à leur niveau.
Ah, c'est grâce au coach.
Disons que je sais ce que je fais tactiquement dans le jeu, ça aide.
Bien sûr, évidemment.
Mais non, il y en a pas mal, notamment les meilleurs joueurs de l'effectif sont au niveau des bons joueurs de Ligue 1, voire des très bons joueurs de Ligue 1 comme Elarouche. Mais sinon, non. Ceux qui sont dans la rotation ou alors qui progressent plus lentement que d'autres pour tout un tas de raisons diverses et variées, sont un peu plus bas.
Parce qu'on rappelle que nos meilleurs joueurs, enfin nos joueurs les plus vieux, vont fêter dans cette troisième saison leurs 20 ans.
Ouais.
C'est-à-dire que le plus vieux aura 20 ans cette année. Pour les résultats un peu.
Ouais,
les résultats
sportifs, où on en est.
La saison a commencé avec une victoire au Trophée des Champions contre Paris. Ah bah, donc revanche par rapport à la saison précédente.
Eh oui, c'est vrai, on avait perdu.
On n'avait pas le trophée encore. Ouais.
Donc on a gagné ça. La saison commençait très bien en Ligue 1 avec tout un tas de victoires, mais un match nul à la SSE. On a eu des petits soucis au début de saison avec de formes et de fatigue parce qu'on avait quand même les trois quarts de notre effectif qui ont joué l'Euro.
Ah, ça se ressent, c'est bien fait.
Ouais, ça se ressent fort.
Ah, c'est dingue. Ouais.
En groupe de LDC, vu que nous étions en première tête de série en tant que champion de France, ce qui était absolument un plaisir incroyable, nous avons tapé Beşiktaş, Sevilla et Sporting.
Homogène.
Ouais.
Homogène.
Et on sort avec 6 victoires.
Oh là là,
ce
qui est rare en vraie Ligue des Champions.
On est le Bayern.
On est le Bayern
dans un groupe.
Les gens vont croire qu'on triche.
La bonne nouvelle, c'est qu'on sort premier du groupe. La mauvaise nouvelle, c'est qu'au premier tour, on va tomber contre le Barça.
D'accord.
Ça, c'est la suite au prochain épisode.
On rappelle qu'on avait perdu contre Chelsea après la fin
de la Ligue Europa. Et on est avant les huitièmes de finale parce qu'on est en janvier 2024.
C'est ça.
Ok, très bien. Quels sont les joueurs qui cartonnent, notamment en Ligue des Champions?
On est combien en Ligue 1? On n'a pas fini.
En Ligue 1, nous sommes premiers.
Ah, voilà, quand même.
Actuellement, nous sommes premiers avec 14 victoires en 17 matchs. Donc, 2 nuls, 1 défaite.
Défaite, c'est à Saint-Étienne alors?
La défaite et je ne l'ai plus sous les yeux. Je crois que c'est...
C'était à Ajaccio. Non,
à Brest. Pas loin. Enfin, l'autre côté, mais...
Voilà, c'est ça.
Ça arrive.
Au bord de la mer. Bon.
Mais ouais, non. Défaite 2-1, 2-1 à Brest. Et du coup, on a un match nul contre Paris et le match nul contre...
Et on est combien de points d'avance, là
sur... On a 6 points d'avance sur Paris qui font un début de saison très poussif aussi.
D'accord.
Beaucoup plus que ce qu'ils ont l'habitude de faire.
On va défendre le titre, donc.
Allez, un peu de stats individuelles. Qui cartonne, qui marque des buts, qui fait des passes?
Alors, celui qui cartonne, c'est Elarouche, qui a été nommé fort. Qui a fait suite à El Shaddai la saison passée en récupérant ses titres de U21 mondial de l'année, de Golden Boy et de joueur français de l'année cette fois, devant Mbappé, etc. Parce qu'il nous fait une année civile, donc 50 matchs joués, 20 buts, 37 passes décisives.
37 passes!
Incroyable! Il est incroyable. En 10, il est absolument injouable.
Bon.
Grâce
c'est
à ces performances-là,
on rappelle aussi que c'est le petit chouchou de Mathieu Bonnemer.
C'est vrai, Mohamed Elarouche qui joue pour l'instant avec la Nationale 2, avec l'Olympique Lyonnais, dans la vraie vie.
Alors, grâce aux performances de ces joueurs-là, nous avons 3 internationaux en équipe de France actuellement.
Ah, c'est les premiers.
Les premiers.
Alors, je peux les deviner?
Bah, vas-y.
El Shaddai.
Il en a fait une.
T'es vraiment un tricheur.
Elarouche.
Mais c'est un tricheur.
Pourquoi un tricheur?
Parce que je les ai. On va dire aux gens qui nous écoutent, on a un groupe WhatsApp pour parler du podcast. Olivier nous a dit justement, j'ai une bonne nouvelle pour le prochain podcast. On a trois joueurs, même cinq normalement, qui sont en équipe de France, mais on en a deux qu'on ne peut pas dévoiler parce qu'on n'a pas encore fait les joueurs dans le podcast.
Ça
ne se peut
pas dévoiler les coulisses.
Et derrière, je donne les noms, donc c'est moi qui trouve les noms et tu fais style devant tout le monde que tu as les noms.
Ça ne se peut pas de me dénoncer comme ça.
Ah, si, parce que tu me voles ma lumière.
Vas-y, c'est vrai qu'il avait deviné. Et l'autre, c'est.
Donc du coup, El Shaddai a une sélection, El Arouche a quatre sélections et un but. Et Mathis Tell a fait deux sélections un but.
Oh, on va les vendre.
Et Mathis, il est resté attaquant ?
Ouais,
il est resté.
Il est sur le côté gauche, là, du coup.
Ouais. Le directeur sportif est content.
Ah ouais, ça se frotte les mains. Hein. Voilà. Ils sont tous les trois autour de 100 millions de valeur estimée.
Et on est le 24 janvier. Donc
on est le 24 janvier.
On a passé 24 jours de mercato.
C'est ça.
Oh, il est obsédé par ça.
Qu'est-ce qu'on a fait ?
Il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu de l'intérêt, notamment pour El Arouche, de la part de Tottenham, du PSG et de l'Inter. Tottenham, c'est aussi posé sur Mikel Bransi,
ouais,
mais il n'y a pas eu d'offres concrètes.
Tu as Metz.
C'est ça.
En vraie vie.
Les seules offres qu'on a reçues, c'est pour Badreddine Bouanani, Wolfsburg qui s'est posé dessus à 12 millions.
Souvent, hein, Badreddine, il a des offres.
Ouais.
Il avait déjà refusé. Là,
mais comment dans le jeu Badreddine ? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup de Badreddine.
Il est pas mal. Ouais. Il fait partie de la rotation au milieu de terrain. Il y a beaucoup de turnover dans le
milieu. On a beaucoup de milieux en même temps.
Ouais, on a beaucoup de milieux et c'est un poste qui se fatigue beaucoup dans le système que j'ai en place. Donc j'en profite. Tout le monde joue pas mal.
12 millions, on a refusé alors.
12 millions, c'est refusé. Il était estimé à ce moment-là entre 12 et 17 millions.
Okay.
Donc c'est à peu près dans sa valeur. Mais lui, il a dit que Wolfsburg ne l'intéressait pas. Donc okay. Je n'ai même pas cherché.
Question pour un joueur de Football Manager. Là, on dit effectivement, on a des joueurs qui cartonnent. On parle d'El Arouche, on parle de Bichabou. Est-ce que toi, tu as des conseils FM à donner à celui qui t'écoute, qui a envie d'acheter El Arouche dans sa partie, peu importe avec quel club il joue, pour que justement on maximise son potentiel ? C'est quoi ? C'est que tu le mets dans les meilleures dispositions ? Il a vraiment un poste attitré de numéro 10 ? Comment tu fais pour qu'il progresse aussi vite ?
Moi, je le mets en numéro 10 parce que ça correspond bien, mais il a un profil qui s'adapterait très bien en 8 également.
D'accord.
Il se trouve que nous, on en a une pléthore absolue en 8, donc j'en profite.
Un gars qui joue avec l'OL, il peut en faire un cador aussi, quoi.
Oh, mais l'OL, ils ont un gisement de jeunes talents, c'est incroyable.
Ouais.
Mais oui, il y a moyen de se faire plaisir.
Hugo Vogel et Mohamed El Arouche pour l'instant.
C'est moins dur de faire progresser un défenseur central parce qu'il y a moins de changements de poste, etc. Donc, quelque part, El Shaddai, peu importe qui le prend, c'est aussi une valeur sûre qui va, s'il joue, progresser très vite, très rapidement.
Bah, c'est moins dur, oui et non. Dans le sens où c'est moins dur s'il est assuré d'avoir du temps de jeu.
Voilà, ouais, c'est ça.
Mais c'est plus dur parce que justement, il y a cette difficulté dans le sens où il faut qu'il arrive dans ses places de titulaire.
Très bien. Donc on est d'accord, on a perdu personne au mercato.
Il y a une offre très intéressante et c'est en pourparlers de
qui
contrat.
Qui nous coupe avec ces trucs, mais le mercato n'a pas terminé.
Oui.
J'ai une autre question.
Le petit Bodmer était actuellement en pourparlers avec l'Atlético.
Je ne peux pas faire ça.
Il est là actuellement, il est en pourparlers.
C'est en pourparlers. L'offre a été acceptée. Il est en fait à 8,5 millions avec 40% sur la revente.
Pas mal. Très beau.
En même temps, Mathieu adore la philosophie de jeu du Cholo Simeone.
Prochain épisode, on sait s'il est parti ou pas.
C'est ça.
Bon teasing.
Ouais, Mathéo, mais c'est affectif là.
Ah, 8,5 millions, on peut le dire.
Quand on a reçu l'offre,
Mathieu me dit vas-y, j'y vais.
J'étais tenté de refuser l'offre. Il a dit qu'il était extrêmement intéressé et qu'il voulait tout prix négocier avec.
8,5 millions, c'est bon.
C'est pas un titulaire, donc c'est peut-être un joueur qu'on peut libérer plus facilement.
Il joue pas mal au milieu.
Il joue pas mal quand même.
Il joue pas mal. Il joue très bien et il a un profil complet mais un peu défensif. Qui dans un 4-2-3 est plus préférentiel.
Bon, on est content de toi, Gourou, hein, c'est bien. Une bonne demi-saison, une nouvelle fois. Hein, une grosse année 2024 qui t'attend. Ne perds pas contre le Barça, c'est le président qui te parle. Hein. J'attends en tournant là-dessus. La Ligue 1, c'est bien, mais la Ligue des Champions, c'est mieux. En tout cas, merci, Gourou, le monde de Gourou. À retrouver dans chaque épisode, évidemment, le suivi du Scouting FC. C'est ce club virtuel dans Football Manager qui a remplacé le stade de Reims et qui permet de faire évoluer tous les jeunes dont on parle, notamment Januel Bellocian, que vous avez découvert avec nous aujourd'hui. Défenseur central du stade Rennais. On a entendu sa maman Micheline notamment, c'était passionnant. On lui souhaite une grande carrière à Rennes ou ailleurs. Et quoi qu'il arrive, vous vous souviendrez que s'il perce au plus haut niveau, vous l'aurez découvert ici, dans Scouting. Merci Loïc, merci les gars.
Merci à vous.
On se retrouve la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau talent.